Dans la vieille rue, troisième partie, chapitre 2. La réponse du médecin d'Heidelberg était enfin arrivée. Le docteur Maoul, seul dans son cabinet de travail, la relisait lentement. Il était assis près de la table, sous l'abat-jour de la lampe. La flamme sèche du pétrole brûlait ses yeux, raréfiait encore l'atmosphère de la chambre étroite. Ses longs doigts pâles tournaient nerveusement les feuillets minces du papier, à large format, sur lequel le savant professeur, après avoir diagnostiqué sur la maladie de l'enfant, avait tracé ses prescriptions. Le verdict était grave, le traitement long, coûteux et incertain. Le père s'arrêtait sur chaque mot. On aurait dit qu'il voulait extraire des phrases un sens caché. Des soupirs, courts, sifflants, sortaient de sa poitrine maigre. Quand il releva son front, aux muscles tirés par l'angoisse, ce fut pour fixer son œil atone sur les objets environnants, comme si les entassements de brochures poudreuses, les instruments d'acier terni, les bocaux d'esprit de vin contenant quelques dépouilles atroces d'humanité, avaient pu redonner l'espérance, fournir les moyens qui manquaient. Mais les appels de sa détresse restèrent sans réponse. Sa tête retomba, découragée. Son regard recommença l'examen de la lettre cruelle. À ce moment, Geneviève entra. C'était la nuit du bal. Elle revenait de la fête. Devant la maison, l'attente avait été longue. Vincent, endormi, n'entendait pas les coups de sonnette impatients du valet de Madame de Crussol. Enfin, elle était descendue tirer les verrous. La mèche fumeuse de sa lampe avait jeté un mince filet de lumière sur les pierres de la rue. Puis la porte s'était refermée, et le long de l'escalier humide, Geneviève avait suivi la petite servante. Ses narines, remplies encore des parfums de la serre, se serraient, blessées de cette odeur forte de moisie particulière aux vieilles maisons. Elle montait, se tenant à la rampe. Le contraste violent et subi l'étourdissait, lui donnait la sensation du rêve. Mais, en pénétrant dans l'appartement, la lumière qu'elle aperçut à travers le vitrage de la porte de drap du docteur la rappela aux réalités de la situation. Cette veillée anormale l'effraya. « Père, qu'avez-vous? Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle en entrant. Elle avait rejeté son manteau. Ses vêtements blancs enveloppaient harmonieusement son corps. Il la regarda avec un faible sourire d'admiration paternelle, le premier qu'elle lui eût inspiré. Mais immédiatement le sourire s'effaça. « Pourquoi n'êtes-vous pas couché ? » reprit Geneviève. « Il est tard, très tard, la nuit est presque passée. » Je ne pouvais dormir, je me suis relevée. Alors il y a quelque chose. Maximin, peut-être? Oh mon Dieu, serait-il plus malade? Vite, dites-moi. Il y avait un remords dans cette voix palpitante qui interrogeait. Déjà elle se sentait coupable d'avoir pris quelque plaisir pendant que l'enfant souffrait. Non, il est comme toujours, répondit le docteur. On entendit un soupir de soulagement intense. Geneviève se pencha vers la table et vit la lettre dépliée, avec la date et le nom de la ville. « C'est du médecin allemand? Quand l'avez-vous reçu ?»« Aujourd'hui même. Il s'excuse du retard et prescrit un traitement. »« Il croit donc qu'il pourra guérir ?» Et une expression radieuse éclaira le visage de la jeune fille. « Que faut-il faire ? » Le résultat sera-t-il prompt ? Non, incertain. Mais ces mots n'abattirent pas son espérance. Depuis longtemps, l'enfant n'avait pas eu de crise. Il semblait plus fort. N'est-ce pas, père ? Nous allons commencer immédiatement. Le docteur Maoul ne répondit pas. Frappée de ce silence, elle se baissa pour le regarder et vit son expression navrée. « Vous n'avez donc aucune confiance dans ces prescriptions ? On dirait que vous ne voulez pas les suivre. Les croyez-vous dangereuses ?»« Non, au contraire. Mais alors, pourquoi ne pas essayer ?
Parce que je suis trop pauvre, Geneviève, que je ne puis pas. »
Et de sa voix cassée, que la douleur même ne faisait plus vibrer, il détailla à sa fille le traitement que l'homme de science indiquait comme la suprême et douteuse ressource contre le mal destructeur. Transport dans un grand centre médical, application d'électricité, douche d'eau minérale, air fortifiant. Elle l'écoutait effarée. Les impossibilités se dressaient devant elle avec une netteté impitoyable. Et dire que la vie de l'enfant dépendait peut-être de ces soins qu'on ne pouvait lui donner. Maintenant, tout à coup, elle se sentait sûre qu'il aurait pu guérir. Elle fit quelques pas dans la chambre, croisant ses mains sur sa nuque, avec le geste d'une créature aux abois qui cherche une solution. Le docteur Maoul était resté assis, les yeux toujours fixés sur la lettre dépliée. Elle se rapprocha de lui.
« Mais si nous vendions la maison, n'y aurait-il pas moyen ?»
Il eut un rire bref et navrant.
« La maison ? Elle est grevée d'hypothèques. Les créanciers peuvent la saisir d'un jour à l'autre. »
Alors, énervé par la veille, à bout de forces physiques et morales, il étala ses amertumes et ses misères. Parla des clients qui ne payaient pas, des dettes accumulées, de la ruine criante qui les menaçait. Elle écoutait, écrasée. Une pâleur grise avait envahi son visage et en ternissait la beauté. La parole paternelle dissipait les mirages. Les misères de sa vie la ressaisissaient violemment, l'enserraient d'une étreinte brutale. Le père et la fille restèrent ainsi longtemps, l'un en face de l'autre. Des silences lourds coupaient les révélations désespérées. Sans qu'ils s'en doutassent, le matin était venu. À travers les barreaux de bois, un jour terne filtrait, éclairant toutes les pauvretés de la chambre. La lampe prit un éclat sinistre. Alors Geneviève s'aperçut que la nuit avait passé. Elle baissa la mèche et ouvrit la fenêtre. Un souffle d'air froid, chargé de senteurs salines, fit passer un frisson sur sa peau découverte. Elle vit la nudité de ses bras et de ses épaules. Elle regarda sa robe blanche. Tout lui revint à la mémoire. Le bal, les lumières, les applaudissements. Mais la créature merveilleuse qu'elle avait vue passer dans les glaces du salon, que les hommes entouraient, que l'amour enivrait, ce n'était pas elle, bien que le visage fût le même. Elle, Geneviève, n'était que la petite Maoul de la vieille rue, la fille d'un père pauvre, la sœur d'un frère infirme. Elle n'avait pas d'autre personnalité. Près de la table, le docteur continuait à parler, rabâchant, geignant, accusant la vie. Il éprouvait une espèce de soulagement à cette expansion insolite. Enfin, la vraie nature de l'homme reparut. Il reprit son masque de résignation.
« Nous n'y pouvons rien, » dit-il. « Va dormir, Geneviève. »
Elle obéit. Son corps brisé ne la soutenait plus, mais elle ne put trouver de sommeil. Elle se rejetait d'un côté et de l'autre du lit dans une agitation de fièvre, dans une terreur de cauchemar. Son cerveau ne finissait pas les pensées commencées. C'était des airs de danse, la voix du régisseur, les mots techniques de la lettre du médecin. Elle essayait de se rendre compte de l'écroulement intérieur qu'elle éprouvait et n'y parvenait pas. Le père avait dit « la ruine ». Mais alors, que ferait-on de l'enfant ? L'idée atroce qu'on ne pouvait le guérir parce que l'argent manquait lui labourait le cœur. À qui s'adresser ? Il n'avait pas d'amis. Un instant, elle pensa à Ernest Randos, mais il venait de partir pour un voyage d'affaires. Dans son angoisse, elle avait oublié l'amour de Georges. Tout à coup, elle s'en souvint. Ce fut une douceur infinie. Puis le cauchemar recommença, mais la douceur revint. Il saurait arranger les choses, quoiqu'il lui fût impossible de deviner comment. Elle finit par s'endormir.
le nom de l'enfant aux lèvres. Quand le lendemain Maximin s'éveilla, il vit Geneviève agenouillée devant son lit. Elle le regardait avec l'intensité de tendresse de jadis. Il s'en aperçut. « Ah ! » dit-il en l'embrassant, « tu es de nouveau tout à moi. » Puis il vit ses yeux meurtris de noir, son expression de pitié désolée. « Comme tu me regardes, sœur, on dirait que tu me plains de quelque chose. » Elle aurait voulu crier « C'est nous que je plains, nous, misérables, qui n'avons pas de quoi te guérir. » Mais elle refoula son élan. Elle eut un sourire gai. « Naturellement, j'ai mauvaise mine, quand on a dansé toute la nuit. » Le petit garçon accepta l'excuse. La mention du bal venait de réveiller sa curiosité. Maintenant, il voulait tout savoir. Ce récit de fête paraissait une ironie à la pauvre fille. Chaque parole lui coûtait un effort qui augmentait sa lassitude. Un billet de Madame de Crussol vint interrompre ce supplice. Le ton impérieux et froid dont il était conçu l'aurait, il y a quelques jours, blessé au cœur. Dans son écrasement actuel, elle ne s'en aperçut même pas. Cependant, lorsqu'elle sortit pour répondre à l'appel de la comtesse, elle se rappela son attitude inexplicable de la veille, et sa tristesse s'alourdit encore. On l'introduisit dans la chambre de Lucien. L'attente fut longue. Elle eut le temps d'observer chaque détail de ce merveilleux aménagement, d'en mieux comprendre l'utilité. Hartfield, tout en remplissant ses fonctions de gouvernante garde-malade, lui racontait les projets de l'été. Ils étaient combinés en vue de l'enfant. Le Mont d'Or, Spa, le Rigi, puis Biarritz en automne. Tandis qu'elle écoutait ses récits, une amertume indicible emplissait l'âme de Geneviève. La dissemblance des destinées, à cette heure décisive, était trop cruelle. Son cœur bouleversé se révoltait. Un peu de ce superflu aurait sauvé Maximin. Elle se surprit, supputant la valeur des objets environnants, calculant la dépense des voyages. L'envie la rendait mesquine. Un valet de pied qui venait l'avertir que Madame de Crussol l'attendait l'arracha à ses comparaisons dangereuses. Elle entra dans la chambre de la comtesse. C'est à dessein que celle-ci avait choisi cette pièce. La mise en scène faisait partie de son plan. Lizzie ne tendit pas la main à Geneviève, ne l'appela pas « chère petite ». D'un geste bref, elle l'invita à s'asseoir et, prenant un ton de grande dignité, « Mademoiselle Maoul, dit-elle, j'ai une question à vous poser. Ignorez-vous mon amitié avec la famille de Briard ?»« Non, madame, je sais que vous êtes l'amie d'enfance de madame de Santenac. » »« Et de son frère également. Cette amitié est si intime qu'elle me confère les droits de la parenté. Vous ne serez donc pas surprise que je vienne vous demander de délier monsieur de Briard des promesses que vous lui avez extorquées. » C'était un coup raide et hardi, mais trop violent pour être habile. Il sembla à Geneviève qu'on venait de la tuer. La chambre tourna autour d'elle. « Je ne puis comprendre, » balbutia-t-elle. Et c'était vrai, elle sentait, mais elle ne comprenait pas. « Vous êtes bien lente d'entendement, » répliqua la comtesse Lise. « Pourtant, je crois m'être expliquée d'une façon claire. Les parents et les amis de monsieur de Briard se sont mis d'accord pour le tirer de la déplorable aventure où il s'est engagé. Voulez-vous les seconder ?»« Les seconder ? En quoi ?» Elle parlait toujours comme en rêve. Madame de Crussol la regardait, savourant son effarement, sa pâleur, sa tristesse. « Voyons, jouons franc jeu. Il s'est passé entre vous et monsieur de Briard des épisodes fort vifs et tendres. Je ne sais pas jusqu'où a été sa hardiesse. « Madame !» cria Geneviève en se levant. « Si loin qu'elle ait été, » continua la comtesse. « Mais madame, qu'osez-vous supposer ?
Je ne suppose pas, j'ai vu. Je comprends d'ailleurs que vous ayez honte d'avouer. »
Le mot « honte » rendit à la jeune fille son énergie.
« Je n'ai rien fait dont j'ai à rougir, rien de contraire à l'honnêteté. »
Il paraît que la vôtre est de composition facile. Elle se trouve à l'aise dans les bras des jeunes gens. »
L'insolence du ton blessa Geneviève, plus encore que la signification outrageante des paroles. Elle bégaya d'une voix mouillée de larmes.
« Mon Dieu, de quoi suis-je coupable? Qu'avez-vous contre moi ?»
Madame de Crussol crut qu'elle essayait de tergiverser, de se défendre en accusant.
« C'est inutile, vous dis-je. Là, de mes propres yeux, dans cette embrasure de croisée, je vous ai vu, suspendu au cou de Monsieur de Briard. Sa bouche caressait vos cheveux. Vous le regardiez avec une impudeur passionnée. »
Lizzie parlait d'un accent incisif. Les mots sifflaient à travers ses lèvres. Dans ses yeux brûlait une pensée de rancune. Elle contemplait avidement la confusion de Geneviève.
« Oseriez-vous nier ? » demanda-t-elle.
« Non, je ne nie rien, » répondit la jeune fille avec un sourire doux et une fermeté tranquille qui déconcertèrent Madame de Crussol. Celle-ci s'était maladroitement fourvoyée. Certes, en entendant cette voix méchante rappeler en phrases cruelles son épisode d'amour, Geneviève avait souffert dans sa pudeur de femme. Mais ce souvenir qu'on évoquait lui rendait confiance en elle-même. Oui, Madame de Crussol ne se trompait pas. Dans cette chambre, Georges l'avait tenue dans ses bras. Leurs lèvres s'étaient unies. Il l'avait appelée « ma femme ». Et ce mot, comme un talisman, lui redonnait de l'assurance, la remplissait d'une grande dignité. La comtesse Lise eut un mouvement de colère méprisante. « Vous avouez, sans vergogne, semblable chose. C'est hardi pour une jeune fille. Encore si vous étiez mariée. »
« Mais alors, je serais coupable, » répondit innocemment Geneviève. « Tandis qu'ainsi je ne le suis pas. Je n'ai nullement à rougir. Monsieur de Briard même, je dois devenir sa femme. »
« Sa femme ! Voilà une illusion que vous payerez cher. »
« Mais pauvre enfant abusé, les hommes de sa sorte n'épousent pas les filles de votre classe. C'est une impossibilité, une prétention inouïe. Voyons, vous ne pouvez y songer, ce n'est pas sérieux. »
Et en des termes violents dont elle ne calculait pas l'insolence, Madame de Crussol fit mesurer à Geneviève, consternée, la distance qui la séparait de Georges. Celle-ci savait bien qu'il était au-dessus d'elle, qu'il se mésallierait en l'épousant, mais elle n'avait pas conscience de la réalité de cette disproportion. C'est à peine si, le jour des courses, elle s'en était vaguement rendue compte. Maintenant, chacune des paroles qu'elle entendait lui causait une humiliation, flagellait ses fiertés. Madame de Crussol continuait son réquisitoire, sans pitié pour le jeune visage désolé qui se levait vers le sien, pourtant intérieurement inquiète des représailles que pourrait exercer Georges si Geneviève la trahissait. Mais moins elle se sentait de droit, plus elle parlait fortement pour s'étourdir. Elle l'accusa de ruse et d'intrigue. « Les promesses extorquées ne comptent pas plus que l'amour qu'on surprend. Vous vous abusez en croyant que Georges vous aime. » À la fin, Geneviève se révolta.
« Je n'ai rien extorqué, » dit-elle. « C'est spontanément qu'il m'a demandé de devenir sa femme. »
Une colère convulsa le visage de la comtesse Lise.
« Et pour le récompenser, vous voulez perdre son avenir ? Que dira sa famille ? Ils m'accuseront de ce malheur, m'en rendront responsable. »
Puis, changeant de ton, elle parla des bontés qu'elle avait eues.
« Je vous traitais en ami, sans me défier de vous. Vous vous en souvenez, mon accueil a toujours été amical. »
« Oui, » balbutia Geneviève, prête à s'attendrir. « Aussi je souffre en vous voyant si dur pour moi. »
Je redeviendrai ce que j'ai été, plus encore même, si vous consentez à renoncer à monsieur de Briard. Vous ne voudriez pas m'exposer à des désagréments. » Cet égoïsme naïf amena un faible sourire aux lèvres de la jeune fille. Lizzie reprit d'un ton persuasif. « Si vous l'aimez, vous ne pouvez désirer son mal. Rien n'est si beau que le sacrifice. » Et habilement, elle essaya d'exploiter les qualités qu'elle avait découvertes en Geneviève. Son dévouement, sa conscience scrupuleuse, sa bonté de cœur. Elle lui dépeignit Georges malheureux, regrettant son mariage, déplorant son avenir brisé. « Vous devez le sauver, c'est votre devoir. Voyons, un bon mouvement, et je vous rends mon amitié. » Elle posa sa main blanche sur l'épaule de la jeune fille. « C'est un mauvais moment à passer, mais votre conscience vous récompensera. » Geneviève se débattait dans un trouble affreux. Était-ce vraiment son devoir de renoncer à Georges parce qu'elle n'appartenait pas au même rang que lui? Son jugement simple et droit lui répondait que non. Mais la voix de madame de Crussol l'influençait. La caresse familière, le parfum doux des vêtements, lui rappelaient le charme des premières heures de leur intimité. Pourtant, les paroles d'abnégation et de conscience sonnaient faux dans cette bouche railleuse. « Je ne puis pas, » murmura-t-elle. C'était lui qui avait prononcé le mot magique. Ce mot l'y liait, elle ne pouvait se dégager. « On peut quand on veut, » répliqua Lizzie. Elle tenait toujours Geneviève par l'épaule. Ses doigts irrités creusaient la chair à travers l'étoffe. Celle-ci répéta, « Je n'ai pas le droit de me délier. Je vous le donne, ce droit. » La jeune fille recula, se dégagea de l'étreinte de cette femme qui voulait décider de sa destinée, lui imposer le sacrifice de son amour. « Et qui êtes-vous pour le faire ? » demanda-t-elle sévèrement. Le ton, la question, exaspérèrent Lizzie, la jetèrent dans les résolutions extrêmes. Ah, cette petite fille la bravait, lui résistait, osait l'interroger. Eh bien, elle allait voir ce qu'il en coûtait. « Vous voulez savoir qui je suis ? » s'écria-t-elle d'une voix où frémissaient des rancunes impitoyables. « Je vais vous satisfaire. Je suis la maîtresse de monsieur de Briard. » Elle lança l'aveu de sa honte avec une impudeur superbe, à laquelle répondit un cri bas, si rempli d'angoisse qu'il lui chatouilla voluptueusement le cœur. Geneviève l'écoutait, les yeux terrifiés. Il lui semblait rouler dans un abîme de torture. D'abord humilié, accusé, maintenant on souillait son amour. Devant cette révélation atroce, elle se sentait mourir. « Mais vous êtes mariée ? » balbutia-t-elle éperdue. « Ce serait un crime ! » La comtesse eut un mauvais rire. Ses yeux, ses cheveux avaient des flamboiements étranges. « C'est justement pour cela qu'on nous aime, à cause du crime. Vous croyez posséder l'amour de Georges, pauvre innocente. Il a pour vous un caprice qui ressemble à sa passion pour moi comme un jour calme de printemps à un jour brûlant d'orage. » Mais Geneviève avait le cœur ferme et fidèle. D'abord écrasée par cette confession audacieuse, des doutes lui venaient. Madame de Crussol continua impérieusement. « Renoncez à lui, rendez-le-moi. Ce n'est pas vous qui l'aime. Son passé m'appartient. » Cette dernière phrase était imprudente. Elle rassura la jeune fille sur le présent. « Qui m'assure de cela ? » dit-elle. « Ah, vous ne me croyez pas ? Eh bien, regardez !» Et approchant son bras du visage de Geneviève, Lizzie lui montra le ruban de velours noir aux chiffres de diamants bizarrement entrelacés. « Voyez nos deux initiales, puis ces lettres renversées. Cela veut dire « nous nous appartenons ». Doutez-vous encore ?» Non, elle ne doutait plus. Georges avait aimé madame de Crussol. Cela jetait une mélancolie sur son amour, mais ne le détruisait pas. Elle se rappelait les yeux sincères du jeune homme, ses paroles sérieuses et tendres. Il n'aimait qu'elle aujourd'hui. Le présent lui appartenait. Qu'importait le passé? Elle releva son front courbé et dit avec une fierté triste « Vous avez eu votre heure, j'ai la mienne maintenant. » Alors madame de Crussol ne se contint plus. La tête perdue, voulant à tout prix faire souffrir celle qui lui résistait, avec une impudeur farouche, elle détailla les joies de ce passé coupable. Puis, voyant sur le visage de la jeune fille le dégoût et l'horreur, elle revint à la prière. Comédie, drame, tout lui semblait bon. Elle s'était jurée de vaincre. La vanité blessée lui mettait dans le sang cette âpreté qui pousse aux luttes à outrance. « J'ai toujours été bonne pour vous. Rendez-le-moi. C'est le sauver. Écoutez-moi, Geneviève. » Elle était plus redoutable encore sous cette forme suppliante. Ses cheveux roux, tranchant sur sa pâleur, donnaient à sa face convulsée une expression pitoyable et tragique. Un instant, la jeune fille se sentit ébranlée par ce mensonge de paroles et d'attitude. Exténuée physiquement, l'âme meurtrie, le cerveau bouleversé, écœurée de dégoût, de mépris, elle fut tentée de s'écrier « Oui, j'y renonce, reprenez-le. » Mais ce mouvement de pitié dédaigneuse ne dura pas. Elle avait entendu dans le vestibule la chaise roulante de Lucien, sa petite voix aiguë qui appelait « Maman, maman !» Cette femme qui l'implorait avec une si indécente lâcheté, elle avait tous les biens de ce monde. Elle pouvait soigner, sauver son fils, tandis qu'elle, Geneviève, la misère l'étreignait. Son frère était condamné, faute du nécessaire pour guérir. Elle se dirigea vers la porte. Son visage était devenu rigide. Au moment de sortir, elle se retourna. « Eh bien ?» demanda Lizzie. « Le sacrifice est trop grand, » répondit Geneviève. Elle remonta la vieille rue, brisée, anéantie. Il lui semblait que tout était souillé, terni. Son innocence, brutalement éclairée, saignait douloureusement. Au haut de l'escalier, son père l'attendait. « Il y a un malheur ?» cria-t-elle. « Oui, » dit le docteur Maoul, « Maximin vient d'avoir une crise. » Elle se précipita dans la chambre de l'enfant. Le petit garçon était couché à plat sur son lit, les mains ouvertes, la face morte. Les derniers tressaillements de la convulsion agitaient encore ses membres grêles. Chapitre 3. La crise que Maximin venait de subir était d'une violence exceptionnelle. Elle le laissa anéanti, sans souffle et sans regard. Cependant, il respirait encore. Les contractions musculaires indiquaient la vie, mais les secousses nerveuses augmentaient les angoisses de son entourage. À chaque instant, on craignait une convulsion nouvelle, qui, dans son état de faiblesse, pouvait être décisive et fatale. Geneviève le regardait, éperdue. Chacun des tressaillements de ce pauvre corps se répercutait dans son cœur. Il lui semblait que sa pauvre vie déclinait avec celle de l'enfant. Les impressions successives et douloureuses qu'elle venait de traverser, jointes à son épuisement physique, l'avaient terrassée. Elle, d'ordinaire si active auprès de son frère malade, restait là, immobile, à côté du lit, les bras pendant le long du corps, dans une stupéfaction désolée. Toute la journée se passa ainsi. Le docteur Maoul faisait des appels désespérés à sa science incomplète, à son cerveau fatigué, pour découvrir un stimulant énergique capable de ranimer ce corps exsangue que l'anémie dévorait. Geneviève obéissait à ses ordres avec des mouvements d'automate. Enfin, très tard dans la soirée, il sortit, disant de cet accent découragé qui révélait tout le désespoir de sa vie manquée, «
Je vais chercher un autre médecin. Moi, je ne puis rien. Je ne sais plus. »
La jeune fille resta seule au chevet de Maximin, qui, blême, les yeux fermés, respirait en gémissant tout bas. Petit à petit, ses signes de vie s'accentuèrent. Les bras commencèrent à remuer, mais c'était plus angoissant encore que l'immobilité absolue. Puis les mains s'agitèrent sur les draps qu'elle rejetait avec ce geste monotone des agonisants qui semblent repousser la mort. Une ou deux fois, Geneviève toucha le front de l'enfant, essaya de l'appeler, mais il ne parut pas entendre. Alors elle se rassit et retomba dans sa torpeur. Dans la chambre, l'atmosphère était étouffante. On osait ouvrir les fenêtres, car le mistral soufflait. Une forte odeur d'éther sulfurique emplissait l'air, donnait à Geneviève des sensations bizarres d'ivresse, engourdissait son cerveau. À la lueur blafarde de la petite lampe, à abat-jour vert, elle regardait avec une attention minutieuse les livres et les objets de prédilection de Maximin, posés sur une table au fond de la pièce. Elle faisait des efforts visuels pénibles pour parvenir à discerner le titre des volumes, les détails des images clouées au mur. Le médecin d'Agdelberg, Georges, Madame de Crussol, elle ne se souvenait de rien. Tout en elle semblait absorbé par la contemplation des objets matériels qui l'entouraient. Autrefois, quand l'enfant était malade, elle priait avec ardeur, fatiguait le ciel de ses supplications, se répandait dans une activité de petits soins incessants. Aujourd'hui, au contraire, une inertie l'envahissait. Elle en avait conscience, et cette inertie l'épouvantait comme un signe fatal. Elle entendit sonner 3/4 après 11 heures. « Comme le père reste longtemps !» murmura-t-elle. « Sans doute il n'a trouvé personne. Si tard, tout le monde est couché dans la ville. » Cette sonnerie l'avait un peu ranimée. Il fallait de temps en temps verser une cuillerée de bouillon chaud entre les lèvres rigides du petit garçon. Elle s'aperçut que le liquide était refroidi et se leva pour préparer la machine à esprit de vin. Tous ses membres lui faisaient mal. La chaleur de la mèche allumée augmenta l'étouffement de la chambre. Des gouttes de sueur perlaient au front de Geneviève. Avec précaution, elle entr'ouvrit la fenêtre. Un souffle de fraîcheur pénétra dans la pièce, fit vaciller la flamme, passa sur le visage de l'enfant et sembla lui redonner la vie. Maximin ouvrit les yeux et regarda autour de lui. Il vit sa sœur penchée à son chevet et jeta ses bras autour d'elle, l'étreignant avec une force nerveuse étrange dans ce corps débile. Il lui faisait presque mal. « Geneviève ! » bégaya-t-il d'une voix dans laquelle l'angoisse luttait avec la faiblesse. « Geneviève, ne me quitte pas ! Secours-moi ! Je souffre !» Cet appel la sortit de sa stupeur, réveilla son énergie. Dans les profondeurs de son être moral, quelque chose vibra d'inexprimablement tendre et fort. Elle étreignit l'enfant. « Cette fois encore, je le sauverai, » dit-elle en redressant son corps superbe que le découragement avait courbé. Elle ne sentait plus la fatigue physique, qui, il y a un instant, brisait ses membres. Dans ses yeux ternis, une flamme s'était allumée. Sa voix avait retrouvé sa sonorité. Toute cette nuit et le jour suivant, et encore la nuit d'après, elle lutta, pied à pied, contre la mort, ranimant les forces du petit garçon par des stimulants et des toniques continuelles, lui soufflant, pour ainsi dire, l'existence. Ces paroles de tendresse semblaient retenir sur terre, par leur intensité profonde, cette âme vacillante qui avait presque déjà franchi les limites de la vie. Lorsqu'après 3 nuits de veille, elle quitta la chambre de son frère pour se reposer dans la sienne, elle y trouva un billet à son adresse de l'écriture de Madame de Crussol. Elle l'ouvrit. La comtesse Lise, ayant appris la maladie du petit garçon,
écrivait pour offrir ses services, les soins de sa bonne anglaise et les consommés de son chef. La souffrance des enfants était le seul point sensible qu'on pût toucher en elle. Aussi, avec sa versatilité de nature, avait-elle momentanément perdu de vue ses griefs contre la jeune fille et la scène déplorable qu'elle lui avait fait subir. Geneviève, en lisant ces paroles amicales, eut un sourire méprisant, une exclamation rapide. « Non, je n'accepterai rien. » Tout ce qu'elle avait oublié lui revenait à la mémoire. Elle se sentit violemment rejetée en pleine lutte, en pleine vie. Mais ses forces physiques, diminuées par l'éveil et l'inquiétude, n'étaient plus capables de la soutenir. Il lui sembla qu'elle serait vaincue inévitablement, que cette femme audacieuse, effrayante par sa duplicité et ses côtés multiples, aurait raison d'elle, Geneviève, avec sa nature confiante et sa droiture simple. Oubliant la présence de Vincente, elle poussa un gémissement d'angoisse. La petite servante la regarda étonnée. « Je croyais que Maximin allait mieux. » Puis elle ajouta « À propos, deux messieurs sont venus prendre de ses nouvelles. »« Quels messieurs ?»« L'un, le moins jeune, a déjà été ici, mais je ne connais pas l'autre. » Il est plus grand, plus maigre. » Geneviève eut un sourire révélateur qui la trahit, même aux yeux inexpérimentés de Vincente. Georges, c'était lui. Un besoin impérieux, un désir fou de le revoir la saisissait, lui faisait comprendre à quel point elle l'aimait, à quel point il lui était cher. Pour la première fois, elle analysait son amour. On aurait dit que chez elle, l'épuisement du corps affinait les instincts de l'esprit et du cœur. Ce sentiment étrange qui la bouleversait, qui la jetait dans des profondeurs de tristesse pour la relever jusqu'au bonheur radieux, était le maître de sa vie. Elle reconnaissait son servage, et ce servage lui donnait une sensation de bien-être, et en même temps de remords, comme si, en se donnant à Georges, elle se volait à quelqu'un. Mais tout cela était indistinct et vague encore dans sa conscience. Le lendemain, vers le soir, tandis que Maximin sommeillait, Vincente entr'ouvrit la porte et fit signe à Geneviève de sortir de la chambre. La jeune fille, croyant qu'on avait besoin d'elle, dégagea lentement sa main que l'enfant tenait encore entre les siennes et passa dans la salle à manger. Le jour commençait à baisser. Dans la petite pièce, il y avait déjà des coins d'ombre. Elle ne vit pas immédiatement que quelqu'un l'occupait. « Geneviève !» murmura une voix très douce. Et deux bras l'entourèrent. Elle eut une exclamation de terreur qui se changea en un balbutiement de joie. Sa tête reposait sur l'épaule de Georges. Elle demeurait là, anéantie, comme noyée dans une sorte d'ivresse. « Ma pauvre enfant, dit-il, j'aurais voulu venir plus tôt, ne pas vous laisser traverser seule ces heures d'angoisse. Mais je n'ai pas su. Pourquoi ne pas m'avoir fait appeler ?» Elle hésitait à répondre. Enfin, elle bégaya. « Je n'aurais pas osé. » « Il me semble pourtant, dit-il avec un sourire tendre, que si quelqu'un a le droit de réclamer mes services, vous êtes ce quelqu'un. « Quelle est la raison qui vous a retenu ?»« Aucune. Je ne sais pas. Je ne me souviens plus. Dans ces moments affreux, j'avais tout oublié, même vous. » Ces paroles innocentes froissèrent Georges. Son cœur, si orgueilleusement susceptible, se serra. Cependant, le contact du doux visage qui se pressait contre le sien aurait dû le rassurer, lui donner l'intuition de l'amour profond dont il était aimé. Ils restèrent ainsi quelque temps, debout, causant à voix basse, pour ne pas réveiller le malade, dont la porte était demeurée entr'ouverte. Geneviève racontait ses angoisses, la lutte désespérée qu'elle avait soutenue contre la mort qui guettait l'enfant. Enfin, maintenant il allait mieux, elle le croyait sauvé. Georges l'écoutait, attentif, mais son intérêt s'attachait uniquement à la bouche qui parlait. Les faits énoncés lui étaient indifférents. Avec un bon sens un peu dur d'homme d'action, cette prolongation d'une existence chétive lui paraissait inutile. Tandis que la jeune fille terminait son récit, les yeux de Monsieur de Brillard erraient autour de la chambre, dans laquelle, malgré l'obscurité grandissante, tous les détails s'accusaient. C'était la première fois qu'il pénétrait dans l'intérieur d'Emma Hall. À chaque découverte navrante, il pressait plus tendrement Geneviève sur son cœur. Il lui semblait qu'il ne pourrait jamais l'enlever assez promptement à cette existence étroite, à cette médiocrité qui le froissait, qui lui faisait mesurer d'une façon désagréable la différence de leur milieu. Il aurait voulu lui dire « Oui, guérissez-le promptement, afin que je vous emmène loin d'ici, dans un horizon plus large, où vous oublierez les débuts de votre vie, où vous revêtirez une personnalité nouvelle. » Mais il comprit que ce n'était pas le moment de tenir ce langage, et se contenta de lui caresser le front, disant tout bas « Pauvre chérie, pauvre chérie, bientôt vous ne vous rappellerez plus ces tristesses. » Geneviève ne saisit pas le sens des paroles de Georges. Elle ne remarqua même pas ses regards investigateurs. Les eût-elle aperçus, d'ailleurs, qu'elle ne s'en serait pas inquiétée. Dans la plénitude de son amour, les détails matériels disparaissaient. La présence de Georges illuminait de son rayonnement la chambre misérable. Elle ne rougissait pas de son dénuement, comme le jour où Libine était venue s'y asseoir. Doucement, elle entraîna le jeune homme vers la fenêtre. Dans le ciel, très pâle, de petits nuages jaunes flottaient encore. On aurait dit de l'or en fusion. À droite, le chemin caillouteux ne se distinguait plus nettement. Les collines prenaient l'aspect de fantômes. En bas, la rue Noire paraissait descendre dans un gouffre, d'où montait le bruit de la foule. C'était une vue d'une mélancolie navrante. Il sembla tout à coup à Geneviève qu'il existait entre elle et l'aspect morne de ces lieux un lien mystérieux et puissant, que l'ombre de la vieille rue devait fatalement s'étendre sur sa vie entière. Un frisson passa dans le cœur de la jeune fille. Elle releva vers Georges un regard subitement égaré et s'attachant à lui avec un mouvement d'effroi, « Oh, mon amour, dit-elle, mon cher amour, sauvez-moi de ma destinée. » Chapitre 4. Lorsque Monsieur de Brillard annonça à sa sœur ses projets de mariage, celle-ci, d'accord avec Madame de Crussol, joua la comédie de la surprise. Elle passa ensuite à l'indignation, aux reproches, aux prières. Sa nature sèche sembla même acquérir une certaine chaleur pour défendre les intérêts matériels et la situation sociale de la maison de Brillard. Elle invoqua le passé, prédit l'avenir. « Vous n'êtes pas assez riche, conclut-elle, pour vous permettre un caprice de ce genre. Votre devoir est de relever votre famille par un mariage avantageux. Et, puisque vous ne craignez pas les mésalliances, nous aurions pu vous chercher une héritière dans l'industrie. Mais cette petite provinciale sans dot. Voyons, Georges, réfléchissez. Le jour où nous sommes n'est pas tout. Il faut penser aux enfants. On doit songer d'avance à la position qu'ils pourront occuper. » Et négliger la recherche de son propre bonheur, interrompit le capitaine. Grand merci, cher ami. Je suis plus de mon siècle que cela. La mode est passée de se sacrifier à un avenir problématique. L'on s'occupe du présent et l'on fait bien. Vous parlez de fortune. C'est vrai, je ne suis pas riche, mais j'ai une carrière et mes goûts sont simples. Et puis, enfin, ajouta-t-il péremptoirement, j'aime Geneviève. Et cela suffit. Cependant, Georges, vous avez des préjugés. Vous tenez à votre caste. Si j'y tiens, s'écria-t-il avec une explosion sincère. Croyez-vous par hasard qu'il ne me soit pas désagréable de me mésallier ainsi? 1000 sentiments se révoltent en moi. Mais ma raison et ma conscience me disent que ces préjugés ont fait leur temps. qu'ils ne sont plus assez respectables et substantiels pour qu'on leur sacrifie bonheur et honneur. » La discussion entre eux se prolongea quelque temps, âpre de part et d'autre. Enfin, Madame de Santenac cessa de lutter. Son égoïsme et sa paresse la rendaient incapable de persistance dans l'action. Puis, Georges n'était que son frère. Ses droits de sœur s'arrêtaient aux limites que posait sa volonté d'homme résolu. S'il voulait se jeter à l'eau, en somme, c'était son affaire. Elle, Marguerite, restait libre de tourner le dos à la belle-sœur qu'il s'obstinait à lui imposer. « Alors, dit-elle, vous êtes irrévocablement décidé. Bien, je me tais, en vous prévenant simplement que vous ne devez pas compter sur moi pour faire accepter votre femme. Cela vous est égal ? Très bien encore. Permettez-moi cependant de vous demander si, ne tenant pas à ce que Mademoiselle Mahoul entre dans l'intimité de votre famille, vous allez entrer dans l'intimité de la sienne ? Vous auriez ainsi, il est vrai, l'inappréciable avantage de cultiver la connaissance du jeune homme blond et de la grosse dame enluminée que nous avons aperçue le jour des courses, sans compter les autres découvertes que vous êtes appelée à faire. Quand Geneviève sera ma femme, elle ne verra plus ces gens-là, répliqua Georges avec une sécheresse de ton qui rappelait celle de sa sœur et qui prouvait leur proche parenté. « Quoi ? Vous pensez à la séparer entièrement de sa famille ? Alors vous emmenez le frère avec vous ? Sans cela, jamais elle ne consentira. C'est une adoration, vous le savez. » Le front de Monsieur de Briard se rembrunit. Le nom de Maximin éveillait toujours en lui une impression de mécontentement. « Quelle absurdité ! » s'écria-t-il aigrement. « Ce serait commode de courir les garnisons, traînant après soi un hôpital. Toutes les femmes, en se mariant, renoncent à leur famille. Geneviève fera comme les autres. » Lorsque Madame de Santenac rapporta à Madame de Crussol la conversation qu'elle avait eue avec son frère, la comtesse Lise eut, à la mention des dernières phrases, un sourire de méchanceté satisfaite. « Nous avons échoué toutes deux, dit-elle. Moi auprès de Geneviève, vous auprès de Georges. J'ai l'idée cependant que ce mariage ne se fera pas. » Il est pourtant parfaitement décidé à passer outre, répondit Marguerite. Il croit son honneur engagé, et ce n'est pas Mademoiselle Mahoul qui le délira de ses promesses. Qui sait ? Répliqua la comtesse Lise. Qui sait ? Elle baissa la voix et ajouta, comme se parlant à elle-même, « Il y a des sentiments qui vous enlacent si fortement qu'ils peuvent vous amener à tout. » Madame de Santenac ne comprit pas. « Eh bien, demanda-t-elle, que nous reste-t-il à faire ? Une seule chose, ne plus le contrarier, mais revenir sans cesse sur la question de la famille et du frère malade. Je voudrais vous aider, chère, mais impossible. » « Georges me fuit. »« Il me semble, en effet. Et depuis quand ?»« Depuis le soir du bal, parce que j'ai osé attaquer d'un mot un peu vif l'objet de ses amours. » Cette réserve du jeune homme contrariait Madame de Crussol, irritait son caprice nouvellement réveillé. Cependant, elle trouvait dans l'éloignement de Georges l'assurance que Geneviève ne l'avait pas trahi auprès de lui. Elle le connaissait assez pour savoir que, si on lui avait rapporté les paroles déplorables échappées à sa colère, il serait venu les lui reprocher sévèrement. Elle sentait aussi que jamais il ne les lui aurait pardonnées. Tandis que, Geneviève se taisant, l'avenir lui restait. Et, sauf en ces moments de violence, la comtesse Lise était de ces femmes qui savent attendre leur propice pour rentrer en scène. Elle s'exhorta donc à la patience et ne fit aucune tentative pour se rapprocher du jeune homme. Elle avait raison. Depuis leur entretien du bal, Georges l'évitait soigneusement. D'abord, pour ne pas provoquer la répétition d'une scène désagréable. Ensuite, parce qu'il se sentait mal à l'aise vis-à-vis d'elle. Cette femme, il l'avait aimée, et lorsqu'il l'entendit dire qu'elle n'avait jamais cessé de compter sur lui, il ne savait pas démêler le mensonge et éprouvait une sorte de honte à avouer son inconstance personnelle. Jamais, dans tout le courant de sa vie, le temps n'avait paru aussi long à M. de Brillard. Évitant le cercle d'amis qu'il fréquentait d'habitude, les obligations du service actif lui manquant, il ne savait que faire de ses heures. C'est à peine s'il apercevait Geneviève un instant chaque jour. D'ailleurs, ses entrevues hâtives, dans cette demeure où tout froissait ses instincts de délicat, ne lui causaient presque aucun plaisir. Il s'irritait de voir la jeune fille distraite, l'oreille aux aguets, attentive au moindre appel qui pouvait venir de la chambre voisine. Il aimait, en outre, les situations nettes, et souffrait d'avoir à se cacher comme un coupable. Tout le heurtait dans cette ville, où il n'avait avec chacun que des rapports tendus. Aussi était-il pressé d'en partir, d'emmener Geneviève. Lorsqu'il lui demandait avec anxiété des nouvelles de Maximin, elle ne devinait pas que le but de cet intérêt était de l'arracher le plus promptement possible à l'humble intérieur qui le blessait dans son orgueil de caste, à l'affection fraternelle que son cœur susceptible jalousait. Un jour, enfin, que Maximin allant mieux, elle était venue le rejoindre sur le sentier de la colline, il lui demanda tout à coup, tandis qu'il se disait adieu sous le porche de la vieille église. « Geneviève, à quelle heure demain pourrais-je voir votre père? Il faut que je lui parle. Cet état de choses ne saurait se prolonger plus longtemps. Ces entrevues dérobées ne me suffisent pas. Au moins, quand la vérité sera connue, nous n'aurons plus besoin de tant de précautions. » La nécessité de demander au docteur Maoul la main de sa fille semblait odieuse à Georges, mais il était pressé d'en finir. « Vous voulez parler à mon père ?» balbutia la jeune fille. « Oui, c'est vrai, il le faut. » Elle avait l'air effarée, presque épouvantée. Il la regarda, surpris. Certes, M. de Brillard aimait Geneviève. Cependant, il avait conscience du sacrifice qu'il faisait en l'épousant et croyait qu'elle serait heureuse et fière de la démarche qu'il proposait. « On dirait, » s'écria-t-il blessé, « que cette communication vous effraie. Non, mais c'est que, voyez-vous, il sera surpris. Il ne se doute pas, qui sait même, mon Dieu, s'il... S'il consentira, voulez-vous dire? Il me semble pourtant... » commença Georges d'un ton hautain. Puis il s'arrêta devant le visage troublé de Geneviève. « Voyons, ma chérie, quelque chose vous tourmente, dites-le-moi. Vous ne répondez pas. Soyez sincère, que craignez-vous ? » ?»« Rien, seulement... » Elle essayait de sourire, mais la main que le jeune homme tenait dans les siennes tremblait violemment. « Je voudrais vous demander d'attendre un peu. »« Pourquoi attendre ? Ah, si vous m'aimiez comme je vous aime, vous seriez aussi pressé que moi. Vous auriez peur des retards. » « Dites, Geneviève, ne serez-vous pas heureuse de m'appartenir, de sentir que rien ne pourra jamais nous séparer ?» À la lueur terne du crépuscule, il se pencha pour chercher sa réponse dans les yeux de la jeune fille. Elle les levait sur lui avec une extase passionnée. Mais une expression étrange figeait ses traits. Sa bouche n'avait pas de sourire. « Heureuse ? » dit-elle de sa voix sonore. « Vous me demandez si je serai heureuse ? Demandez-moi plutôt ce que je deviendrais s'il me fallait vous perdre. » Il se mit à rire. Ce serait une question hors de propos, puisqu'il s'agit de savoir, au contraire, comment je pourrais vous prendre avec moi, le plus vite possible, vous emmener. « M'emmener ? Mais oui, mon congé expire bientôt. Il faut nous marier promptement et partir pour Caen. Où mon régiment est envoyé. Êtes-vous prête, madame ? Continua-t-il en plaisantant. À commencer votre vie de garnison ? Elle ne répondit pas. C'était vrai, en épousant Georges, il faudrait partir, s'en aller. Cette révélation la bouleversait. Pourtant, elle savait bien qu'il n'était que de passage dans la ville. Comment n'avait-elle pas envisagé plus tôt les conséquences de ce mariage? C'est que tout s'était succédé si rapidement dans l'espace de quelques jours. La scène du jardin, les courses, le bal, la maladie de l'enfant. Dans ce conflit d'émotions diverses et sans cesse renouvelées, elle n'avait pas eu le temps de réfléchir. La perspective de devenir sa femme lui était apparue comme une félicité lointaine et radieuse. Maintenant, tout se précisait. Il parlait de l'emmener immédiatement. Mais c'était impossible. Maximin était trop malade encore. On ne pouvait le transporter. L'idée qu'un mari quelconque songeât à la séparer définitivement de son frère ne lui venait même pas. « Alors, cher enfant, c'est entendu !» reprit le jeune homme. « Préparez votre père à ma communication de demain. »« Non, pas demain !» répondit-elle d'une voix suppliante. « Attendez encore !» Je vous préviendrai quand le moment sera venu. » Elle connaissait l'amour profond du père pour le fils. Elle avait peur qu'il ne refusât de le laisser partir. D'ailleurs, ce serait cruel de lui demander maintenant ce sacrifice. Il fallait l'épargner encore. Elle fut sur le point d'expliquer à Georges la nature de ses irrésolutions, mais un instinct l'en empêcha. Elle se contenta de solliciter un délai qu'il accorda de mauvaise grâce. Il s'était attendu à plus d'empressement. Les embarras que faisait Geneviève pour quitter sa famille fortifiaient l'antipathie du jeune homme contre cet entourage incommode, augmentaient son désir d'en finir au plus vite avec ce passé médiocre. Geneviève rentra chez elle soucieuse, le cœur alourdi. Cette nécessité du départ, subitement révélée et comprise, la troublait profondément, la jetait en de douloureuses perplexités. Plusieurs fois dans la soirée, Maximin lui demanda « Sœur, qu'as-tu? Tu parais si préoccupée. Pourtant, je t'assure, je vais mieux, beaucoup mieux. » Et ses mains amaigries s'attachaient à celles de Geneviève pour les caresser, et il semblait à la jeune fille que les doigts fluets de l'enfant emprisonnait sa vie, se changeait en une chaîne que rien ne pourrait briser. Pourtant, ses sentiments étaient encore en elle indécis et indéterminés. Elle éprouvait l'angoisse vague de quelqu'un qui, se trouvant jeté sur une route inconnue, pressent tout à coup qu'il y rencontrera des difficultés et des déchirements imprévus. Elle ne voyait pas clair devant elle. Tout se brouillait à ses yeux. « Voyons, qu'as-tu ? » reprit Maximin. « Dis-moi ce qui te tourmente. »« Je ne sais pas, » répondit-elle. Et elle disait vrai. L'enfant allait mieux. Georges l'aimait et voulait l'épouser. Au fond, pourquoi ce malaise grandissant ? Elle n'aurait su l'exprimer en paroles. Et cependant, elle se sentait d'heure en heure plus oppressée, moins confiante dans l'avenir. Maximin, au contraire, était rempli de cet entrain des convalescents qui renaissent à la vie. Si chétives que fussent ses forces, il était heureux de les retrouver. Il faisait des projets, s'occupait beaucoup de Lucien. « Quand crois-tu que je pourrai sortir? Il fait si chaud, le temps est si beau. Nous demanderons à papa, et ma première promenade sera pour aller chez les Crussols. Tu m'y mèneras, promets-le, Geneviève. » Elle évita de répondre, ne voulant pas affliger l'enfant par un refus, détournant la tête pour qu'il ne vît pas l'expression de son visage. Certes, non, elle ne retournerait plus dans cette maison, où se concentraient pour elle les souvenirs les plus aigus de sa vie. Bonheur intense et humiliation atroce. Les mots cruels, à moitié oubliés, par lesquels la comtesse Lise lui avait fait comprendre que Georges se dégradait en l'épousant, ceux plus cruels encore dont elle s'était servie pour lui révéler leur passé de passion, revenaient avec une vivacité singulière à la mémoire de la jeune fille, augmentant son malaise, semblant enlever à son amour une partie de sa dignité. Mais le petit garçon, avec son obstination de malade, revint sur la visite projetée. Elle finit par lui dire « C'est que, vois-tu, les Crussols vont partir. Lorsque tu seras rétabli, ils ne seront plus là. »
Maximin soupira. Le départ de Lucien rétrécissait son horizon. Le coin bleu entrevu allait disparaître. Son expérience des bonnes choses de ce monde ne datait que de son intimité avec l'enfant riche. Il eut une parole amère.
« Ah ! » dit-il, « tout sera laid après cela. Ce mot navra Geneviève. Elle comprit d'intuition tout ce qu'il renfermait de regrets, tout ce qu'il annonçait de tristesse pour l'avenir de l'enfant. Mieux aurait valu pour lui ne jamais connaître d'autres perspectives que les murs gris de la vieille maison. Elle avait les nerfs tendus. Cette pensée acheva de la démonter. Maximin vit des larmes dans ses yeux. Alors, comprenant son ingratitude, saisi de remords, il s'attacha à son cou.
« Sœur, sœur, j'ai été méchant. Je ne savais pas ce que je disais. Ne pleure plus. Quand tu es avec moi, tout me semble beau et riant. »
Puis, voyant qu'elle ne disait rien et voulant la rassurer davantage, il reprit.
« Je t'en supplie, crois-moi, c'est mal de pleurer, comme si je ne t'aimais plus. Pourvu que tu me restes, Lucien, tout le monde peut partir, je ne serai pas triste. Tandis que si tu me quittais, toi, je mourrais, Geneviève, tu le sais bien. »
Elle frissonna et étreignit l'enfant. Il avait appuyé sa joue contre la sienne, lui aussi pleurait. L'idée que sa sœur pouvait douter de son affection était horrible pour le petit garçon. Il voulait absolument la convaincre qu'il avait besoin d'elle, rien que d'elle.
« Jure-moi de ne jamais me quitter, »
murmura-t-il à son oreille, avec sa voix ardente d'enfant malade.
« Et je serai heureux. »
« Pourquoi jurer ? » demanda-t-elle faiblement. « Ce n'est pas nécessaire. »«
Oui, oui !» insista-t-il. « Promets, sans cela je croirais que tu es fâché. »
La peau de Maximin brûlait. Elle sentait ses bras se raidir. Toute contrariété pouvait être dangereuse.
« Promets, promets donc !» dit-il de nouveau.
« Oui, je promets, » répondit Geneviève avec un déchirement intérieur qui ressemblait à un pressentiment.